Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'ouverture de négociations en Nicaragua après la répression sanglante de manifestations organisées par les détracteurs d'une drastique réforme des retraites, précision de Sarah Maquet. Le dialogue restauré en Arménie entre l'opposition et l'ex-président et actuel Premier ministre accusé de confisquer le pouvoir, dossier suivi par Louis-Valentin Lopez. Une décision spectaculaire de Pyongyang, fin des essais nucléaires et des tirs de missiles intercontinentaux, réserve japonaise. Tokyo toujours sous la menace d'armes de moyenne portée, correspondance de Frédéric Charles. L'OPEP dans le collimateur de Donald Trump, le cartel riposte et renvoie les États-Unis à leur surconsommation de pétrole, d'où en partie la flambée des cours, explication de Pierre-Yves Dugas. Enfin, la bulle économique de ce samedi consacrée à l'efficacité toute relative des sanctions économiques en cas de rixe diplomatique. Marie Viennot en fin de journal. Le président nicaraguayen a une singulière conception du dialogue. Après avoir imposé une réforme des retraites, le leader du Front sandiniste de libération nationale, doit-on le rappeler, issu de la révolution de 1979, commence par envoyer la troupe avant d'inviter ses détracteurs à la table des négociations. Bonjour Sarah Maquet.
Bonjour.
Sarah, 10 morts lors des dernières manifestations qui eurent lieu à Managua. De quelles informations disposons-nous?
Alors d'abord, il y a des photos et des témoignages qui rappellent un autre Nicaragua, celui des années 80 et de ses 30 000 morts issus de la guerre civile entre administration Reagan et pouvoir sandiniste. En effet, dans les rues de Managua, aujourd'hui, de nouveau, des pierres affrontent des balles. D'un côté, des étudiants et retraités, une protestation de la base et non d'un parti, selon Oscar René Vargas, expert en politique interrogé par l'AFP. Face aux manifestants, l'armée, qui a ouvert le feu, appuyée par les jeunesses ortéguistes, milices violentes acquises au président. Résultat, 10 morts, dont un policier, 80 blessés, dont 9 journalistes et 4 chaînes de télévision indépendantes fermées par le gouvernement. Daniel Ortega, d'abord inflexible face aux manifestants, mais celui qui est aujourd'hui un bon élève du FMI aurait finalement écouté la principale organisation patronale du Nicaragua, organisation qui a demandé hier la fin de la répression et qui organise lundi une marche nationale pacifiste.
Sarah, quelles sont les principales mesures de cette réforme des retraites et dans quel paysage économique cette réforme a-t-elle été imposée?
Alors la réforme de la sécurité sociale imposée par le gouvernement prévoit l'augmentation des cotisations couplée d'une diminution des pensions de 80 à 70% du salaire. Les retraités reverseront en plus 5% de leur pension pour des frais médicaux qui sont jusqu'à présent gratuits. Des mesures qui ne passent pas dans ce pays de 6 millions d'habitants où 40% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Alors malgré la crise économique, le Nicaragua, allié commercial des États-Unis et du Venezuela, continue aujourd'hui de financer des programmes sociaux, de quoi assurer à Ortega, rééligible à vie, un électorat assez passif ces dernières années qui semble aujourd'hui vouloir reconquérir son droit à s'exprimer.
Merci à vous Sarah Maquet. En Syrie, un nouvel accord d'évacuation conclu ce matin entre des agents russes et des combattants du Kalamoun oriental à une 60aine de kilomètres au nord-est de Damas. Le régime syrien est en passe de contrôler la capitale et ses environs, comme en 2012. L'ancien camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, où sont encore positionnés des effectifs de l'organisation État islamique, a de nouveau hier été abondamment bombardé. Les engagements nord-coréens de la nuit dernière ont sans surprise été salués par le principal allié de Pyongyang. La Chine veut voir dans cette annonce un geste qui va permettre au Nord de se concentrer sur son développement économique. Quel progrès, s'est enthousiasmé le président américain qui se dit impatient de rencontrer Kim Jong-un le mois prochain ou bien début juin. La Corée du Sud parle d'une décision significative. Mais de quelle décision s'agit-il? Répondre à cette question reste délicat. A-t-on seulement notion précise de l'arsenal? La Corée du Nord, pour en rester aux annonces, s'engage à suspendre ses essais nucléaires ainsi que ses tests de missiles balistiques intercontinentaux. Rien de nature à détendre Tokyo. C'est une correspondance de Frédéric Charles.
Le ministre japonais de la Défense remarque que Kim Jong-un ne mentionne pas l'abandon de missiles de courte et moyenne portée. Une centaine d'entre eux sont tournés vers Tokyo et Osaka. En clair, dans l'éventualité d'un accord avec Donald Trump, Kim Jong-un est prêt à renoncer à frapper des villes américaines avec des missiles de longue portée, mais il se réserve le droit de continuer à menacer les villes japonaises avec des missiles de courte portée. Le Japon craint que Donald Trump s'assure en priorité que ces villes ne soient pas détruites par des missiles nord-coréens, quitte à sacrifier la sécurité des villes japonaises. Or, au terme du traité de sécurité nippo-américain, les États-Unis doivent simultanément défendre les villes américaines et japonaises. Le Japon abrite les plus grandes bases américaines en dehors des États-Unis.
Dorian Mlalovic, chef du service Asie du quotidien La Croix et spécialiste de la Corée du Nord, décrypte pour nous la traduction politique de cette décision prise par le leader nord-coréen.
Kim Jong-un présente cet arrêt et ce gel comme une victoire du pays. Et qu'en 2012, il a lancé sa stratégie du Byongjin, c'est-à-dire la double poussée, le nucléaire accéléré, c'est-à-dire il y est arrivé maintenant, et à la rencontre du Parti des travailleurs cette semaine, il a dit maintenant nous allons accentuer l'économie. Donc on voit bien que dans la logique, c'est d'arriver à un allègement des sanctions progressivement et de développer le pays.
Doria Malovitch, qui a signé avec Juliette Morillot le livre « Le monde selon Kim Jong-un » aux éditions Robert Laffont. Au 9e jour de contestation à Yerevan et dans les principales villes arméniennes, l'actuel Premier ministre Serge Sarkissian, qui n'est autre que l'ex-président, condescend à recevoir le leader de l'opposition, Nicole Pachinian, qui a appelé à un mouvement de désobéissance civile tout en convoquant le passé tchèque et sa révolution de velours. Bonjour Louis-Valentin Lopez.
Bonjour Mathieu.
Louis-Valentin, redites-nous ce qui a provoqué les confrontations de ces derniers jours.
Eh bien, pour mieux comprendre ces tensions, il faut remonter en fait à 2015, Mathieu. À l'époque, Serge Sarkissian est président. Il fait alors voter une réforme très controversée, un texte qui remet l'essentiel du pouvoir entre les mains du Premier ministre. Or, Premier ministre, eh bien Serge Sarkissian l'est devenu mardi dernier. Il ne pouvait pas effectuer plus de 2 mandats d'affilée. Celui qui était aussi amateur d'échecs a donc habilement bougé ses pions, mais la rue pourrait aujourd'hui mettre à mal sa stratégie. C'est l'avis d'Ara Toranian, directeur du magazine mensuel Les Nouvelles d'Arménie.
Je ne vois pas comment les autorités en place pourraient faire abstraction du rapport de force qui est en train de se créer dans la rue. 30 000 personnes en Arménie, c'est à peu près l'équivalent d'une manifestation de 700 000 personnes en France.
Et puis en face de lui, Serge Sarkissian a un adversaire coriace, Nicole Pachinian, meneur de la contestation, opposant de longue date. En 2008, il avait été brièvement incarcéré. C'était déjà lors de manifestations qui s'étaient soldées par 10 morts dans un pays aujourd'hui toujours marqué par la pauvreté et la corruption, Ara Toranian.
L'Arménie connaît les affres de très nombreuses républiques ex-soviétiques, à savoir un taux de chômage extrêmement élevé, près de 20%, une corruption qui ne recule pas en effet, une crise économique très dure, c'est un pays pauvre, il n'y a pas de ressources naturelles.
Des ingrédients propices, selon lui, à un durcissement du mouvement, mais il note tout de même ce basculement, le passage du slogan de la révolution de velours à des propositions politiques.
Il ne s'agit plus seulement d'obtenir la démission de Serge Sarkissian, mais il s'agit également de demander des élections législatives anticipées.
Et dans le même temps, l'ONG Human Rights Watch a publié un communiqué, je cite, « Les manifestations ne doivent pas être un prétexte aux arrestations arbitraires ».
Merci à vous, Louis-Valentin Lopez. Le gouvernement indien approuve l'instauration de la peine de mort pour les personnes coupables de viol sur des enfants âgés de moins de 12 ans. Peine capitale également pour les auteurs de viol de jeunes filles de moins de 16 ans, à la demande de Narendra Modi. Le Premier ministre avait en effet convoqué une réunion d'urgence après le viol et le meurtre par 8 hommes d'une fillette de 8 ans d'une tribu musulmane nomade de l'État du Cachemire. Le PEP aimante les agacements de Donald Trump. Le cartel ne manque pas de lui répondre que d'autres facteurs que la limitation volontaire des quotas en vigueur depuis 2017 expliquent la récente flambée du brut. Les explications de Pierre-Yves Ducas.
Le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis est remonté au plus haut depuis juillet 2015. La saison des vacances, où la consommation est la plus forte, approche et Donald Trump a choisi d'accuser l'OPEP, sur Twitter, d'être responsable de la situation. Il accuse l'OPEP de maintenir des prix artificiellement élevés. Le baril américain est effectivement au plus haut depuis 3 ans parce que l'Organisation des pays producteurs et la Russie limitent délibérément leur production depuis janvier 2017. Cette pratique a permis de résorber le plus gros des stocks de pétrole sur le marché et de faire remonter les cours. Elle a aidé aussi les producteurs américains de pétrole de schiste à augmenter eux-mêmes leur production. Les États-Unis n'ont jamais pompé autant de pétrole de leur sous-sol, soit plus de 10 millions de barils par jour. Le secrétaire général de l'OPEP dément manipuler les cours du brut. il est vrai que d'autres facteurs pèsent depuis quelques jours sur le marché, à commencer par la crainte d'un retour de sanctions frappant le pétrole iranien, mais aussi le pétrole vénézuélien. Les prix très hauts ne sont pas bons et ne seront pas acceptés, affirme le tweet présidentiel, mais on voit mal comment Washington pourrait peser sur les cours.
À Madagascar, l'opposition maintient aujourd'hui une manifestation interdite par les autorités. En ligne de mire, trois lois électorales récemment promulguées et non moins controversées, et ce, à quelques mois des législatives et des présidentielles. Les autorités nigériennes volent au secours de milliers de paysans souffrant de disette en raison de mauvaises récoltes. 300 millions d'euros sont dédiés à un plan de soutien aux populations vulnérables auxquelles il sera distribué gratuitement, voire vendu à vil prix, des céréales. En France, poursuite à l'Assemblée nationale de l'examen du projet de loi Asile et Immigration, sixième jour de débat avec ce matin, dès l'ouverture de séance, un rappel à la loi du député LR Éric Ciotti qui déplore ce choix du gouvernement d'organiser pareille discussion avec un vote, ce sont ses termes, en catimini la nuit prochaine, voire demain dimanche.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour. Les sanctions économiques à visée politique font florès depuis une vingtaine d'années. Elles tiennent sur 180 pages pour l'ONU, concernent 27 pays pour l'Union européenne et plus de 6000 personnes interdites de faire des affaires en dollars par les États-Unis. Pour mesurer l'efficacité de ces sanctions, il faudrait que leurs objectifs politiques soient clairs. Or, c'est rarement le cas et souvent, ces objectifs changent avec le temps. Néanmoins, des chercheurs américains ont testé l'efficacité des sanctions de l'ONU. Pour eux, elles ont abouti au changement de comportement visé dans 13% des cas. 13%, cela peut paraître minime, mais pas si on se dit qu'il n'y a que deux alternatives aux sanctions économiques, l'inaction ou l'entrée en guerre. L'arme économique est devenue une façon de dire ces dernières années « Nous réprouvons ce que vous faites, vous ne serez pas impunis », tout en évitant le conflit, la guerre ou les interventions militaires qui, contrairement aux sanctions économiques, font polémique, coûtent cher et sont beaucoup plus risquées. Dans cette salsa portoricaine, le chanteur fait la liste des produits qu'on ne trouvait plus à Cuba du temps de Fidel Castro. Contrairement à l'embargo américain sur Cuba, qui ne s'est que récemment assoupli, qui dit sanctions ne dit plus maintenant rupture totale des relations économiques. Aujourd'hui, les sanctions économiques sont dites ciblées, smart, intelligentes. Elles visent des secteurs, des entreprises, des individus, plus rarement toutes les relations. En décembre, le ministre des Finances Bruno Le Maire a ainsi plaidé depuis Moscou pour plus d'échanges avec les Russes, en dépit des sanctions européennes en cours depuis 2014 et le rattachement de la Crimée à la Russie. De son côté, la Russie a décrété un embargo sur l'agroalimentaire européen en représailles, mais elle n'a jamais remis en cause ses exportations de gaz envers l'Europe, alors que Gazprom compte pour 20 à 80% des importations de gaz selon les pays européens. Si Vladimir Poutine avait voulu asphyxier nos économies, il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait, car lui non plus n'y a pas intérêt. Voilà pourquoi on considère que les sanctions économiques relèvent du hard power, mais avec des soft means, pouvoir fort, moyen souple. La plus ou moins grande souplesse offrant aux diplomates des marges de négociation, c'est aussi l'intérêt de ce type de sanctions. Mais attention, elles ne sont pas sans effet secondaire. Voilà pourquoi l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales, s'intéresse non pas à l'efficacité, mais à la performance des sanctions économiques. Ce qui permet de tenir compte des possibles effets contre-productifs, et ils sont nombreux, sans oublier aussi les effets sur les pays qui sanctionnent. Avec les sanctions contre la Russie, l'Union européenne a perdu 40 milliards de dollars d'exportations potentielles en 2014 et 2015. Le plus gros de cette perte est lié aux sanctions européennes elles-mêmes et pas à l'embargo russe sur l'agroalimentaire européen. Ce qui limite et même sape l'efficacité des sanctions, c'est aussi l'opacité des circuits financiers internationaux.
Until the shadowy world is held accountable.
Comme l'explique cette vidéo, mise en ligne par le consortium des journalistes d'investigation au moment des Panama Papers, des entreprises syriennes, dont les avoirs avaient été gelés par les Américains, n'ont eu aucun mal à poursuivre leurs activités en passant par des sociétés écrans aux Seychelles. À l'heure où l'on parle de nouvelles sanctions ciblées contre la Syrie, l'opacité financière n'a pas assez reculé pour qu'elle soit très efficace, mais on peut toujours en parler.
Bulle économique signée Marie Viennot à retrouver sur franceculture.fr. Les très grandes lignes météo de l'après-midi pour refermer ce journal, temps instable sur le nord-ouest, très ensoleillé ailleurs. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia, à la technique Audrey Guélil.